Le verre de lait, il n'y a rien de meilleur.
J'ai cru comprendre que vous en savouriez un verre tous les soirs, chancelier.
Depuis mon enfance.
Le lait, c'est de l'eau à 90%, dans laquelle on trouve des lipides, que l'on nomme matière grasse, des glucides, majoritairement sous forme de lactose, et des protéines, dont 80% de caséine. Le lait contient également du calcium, du phosphore, du fer et du magnésium.
Et il faut savoir que le lait, lui, n'est pas vraiment blanc. Ce sont les protéines dans le lait qui diffusent la lumière et donnent cette illusion. Et oui, le blanc du lait est composé de plein de couleurs, que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Liquide blanc, opaque, très nutritif, sécrété par les femmes et les femelles de mammifères, voilà pour la définition du petit Robert. Mais le lait, c'est aussi et surtout cette boisson qui a accompagné l'homme durant toute son histoire. Une boisson qui raconte tout à la fois le monde paysan, l'évolution de la médecine et de notre alimentation, la révolution industrielle. Un livre passionnant s'empare de cette épopée laitière, du lait et des hommes, je le brandis dans notre studio. Histoire d'un breuvage nourricier de la Renaissance à nos jours, publié aux éditions Vendémiaire, et nous sommes ravis d'accueillir son auteur dans notre studio, c'est Didier Nourisson. Bonjour.
Oye, oye, bonnes gens. Aujourd'hui, un nourrisson vous parle du lait et de son histoire.
Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard, Lyon 1. Et vous allez notamment nous raconter comment le lait est passé du statut de breuvage nourricier à celui de produit standardisé. Ça, c'est l'histoire que vous allez nous raconter. Un produit standardisé, je le disais, qui n'affiche pas d'ailleurs une santé éclatante. Depuis 10 ans, les ventes de lait en volume baissent de 3% par an en moyenne. Et si le confinement de 2020 avait marqué un rebond, 2021, avec moins 6% de litres vendus, subit une nouvelle dégringolade. Pourquoi les Français boudent le lait? Comment renouer éventuellement avec un lait de qualité? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions qu'on va poser à notre spécialiste fromage et produits laitiers dans l'émission. C'est Pierre Coulon, salut.
Bonjour.
Ça va Pierre?
Carrément, j'ai plein de lait, j'ai fait plein de courses, beaucoup de choses à dire.
Et vous avez encore le moral?
À peine.
Vous avez fondé, il faut le rappeler, la Laiterie de Paris. Vous nous en rappelez l'adresse?
74 rue des Poissonniers, dans le 18e arrondissement.
C'est ça, et vous fabriquez, vous commercialisez de délicieux fromages et produits laitiers. Vous êtes également un formateur au métier de fromager crémier.
Au CIFCA, dans le 18e, et un gros trafiquant de lait, mais de bon lait.
C'est ça, de bon lait, c'est ce qu'on va voir avec vous. À mes côtés également, je suis ravi d'accueillir mes chroniqueuses Elvira Masson et Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour tout le monde.
Elvira.
Vous me connaissez bien, François Régis?
On peut dire que oui.
Est-ce que vous diriez que je suis soupe au lait?
Non.
Aujourd'hui, je le suis.
Notre amitié est-elle? Ah, aujourd'hui, vous l'êtes. Ouais, pour la bonne cause, hein?
Ouais.
C'est ça. Manon?
Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très 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 fin et qui suscite soit l'attraction, soit le dégoût.
Moi, j'ai ma petite idée. C'est un super produit dont Manon nous fait une démonstration tout à l'heure. Si vous voulez mettre votre grain de sel dans l'émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail onvadeguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de verser dans le pot de lait, vous trempez d'abord votre cuillère dans un autre pot, et c'est un pot mystère, car vous dégustez, chers amis, une petite surprise à l'aveugle. Vous connaissez le jeu dans notre émission. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de ce produit étonnant?
Il y a du miel.
On dirait
bien
du
joué, Didier Nourisson.
Mais pas que.
Ah, alors mais pas que, ça reste à voir. Est-ce que ce miel se distingue par quelque chose de particulier, Manon Fleury?
Il n'a pas tout à fait la même texture que le miel.
Bravo.
C'est plus épais, bravo. C'est plus pâteux. On dirait que c'est un miel qui se serait solidifié un peu.
Ça croustille un peu, ouais.
Alors, il y a aussi des petits cristaux, vous avez raison. Mais comme le dit Manon, il y a une texture très particulière qu'on pourrait qualifier de fondante, de...
Oui. D'un gel, presque.
Bravo.
Il est très parfumé, bon.
Oui.
Il est très long en bouche.
Il est long en bouche, c'est très persistant.
Je trouve qu'on n'est pas très loin du miel de châtaignier dans les arômes.
Il y a une légère amertume.
C'est un peu vinaigré. Alors, après, moi, je suis pas trop miel.
D'accord. Eh ben écoutez,
c'est un miel avec la propolis, un miel avec quelque chose en plus.
Non, on va pas aller chercher si loin. C'est un miel qui a effectivement une texture gélatineuse. Moi, j'étais assez ébloui par cette texture qui est tout à fait naturelle d'ailleurs. Dans le milieu de l'apiculture, il y a un nom savant pour désigner cette texture très particulière. Attention, je le lâche. C'est une texture
Tixotropique.
Ouais. Vous avez entre les mains l'un des seuls miels au monde qui a cette consistance. Et vous savez à quoi est liée cette consistance? Eh bien, sa teneur en protéines, entre 1 et 2% de la masse totale. Et c'est ce qui procure justement cette texture très gélifiée. Et la plante qui est à l'origine de ce miel fabuleux, c'est la bruyère calune. Oh. Une plante aux fleurs rose pâle qui pousse historiquement en Lozère, dans les Pyrénées, la forêt des Landes, entre autres, mais dont la surface a considérablement reculé. Et voilà, et c'est le combat justement d'un apiculteur d'exception qui s'appelle Thierry Fedon. Il est dans le Limousin. La bruyère calune fleurit dans le parc naturel régional de Millevaches au mois d'août. On est entre 800 et 950 mètres d'altitude. Sauf qu'en 60 ans, écoutez bien, c'est un désastre écologique. Sur ce plateau de Millevaches, cette calune est passée de quelques dizaines de milliers d'hectares à quelques centaines à peine aujourd'hui, la faute à la sylviculture et l'invasion du fameux pin Douglas. Autrement dit, c'est un miel rarissime et c'est un miel qui est également cher. 15,50€ le pot de 300 grammes de miel bio, oui, parce que, et d'ailleurs Thierry Fedon dit que c'est à peine rentable, il le fait en fait dans le pur souci de maintenir ce savoir-faire, cette tradition apicole. Il est l'un des deux, trois derniers apiculteurs à produire ce miel de calune. En plus, il y a un fan club qui met beaucoup de pression pour qu'on continue à consommer ce miel. Et en plus, il est très difficile à extraire parce qu'il nécessite du temps, des équipements spécifiques. Enfin, je vous passe les détails. Toujours est-il que c'est le miel de calune qui a quasiment disparu en France avec ses saveurs aussi boisées, florales, presque balsamiques. Une légère amertume, c'est vraiment un miel intéressant.
Donc l'acheter, c'est presque un acte militant, en quelque sorte.
Vous avez tout dit, Elvira. L'acheter, c'est un acte militant et on peut aller faire justement un tour sur le site de la Maison Fedon. Il y a plus de 15 variétés de miel superbes, tous en agriculture biologique. Voilà, c'est une belle histoire d'artisanat, comme on les aime, mu par de solides convictions. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Arnaud Caillé à la technique, Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. Dans un instant, le lait, breuvage nourricier ou produit standardisé, ben c'est ce qu'on va voir. Après un petit florilège de chansons, oui, car le lait est aussi, vous allez le voir, une formidable source d'inspiration musicale. Bon dimanche sur France Inter.
Avait dit, faites pas d'imprudence, pour sauver cet enfant, voici l'ordonnance. Vous lui donnerez du lait toute la nuit. Du lait, rien que du lait, mais qu'il soit bouilli.
À qui les vole des billets, à qui les lèle des billots, des billets si beaux, des billots si laid. S'il est un des bibots, c'est bien le beau des billets.
Cela me fait penser au prix que le lait vaut, ce lait qui coule à bise ouverte.
Du bon
lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage au lait.
Maman, pour me changer d'air, me faisait monter à la ferme où les vaches vivaient bien sur le mont Valérien. Allant à la découverte, chaque jour que Dieu fait, on emportait une berthe. C'est ainsi qu'on l'appelait, oui, une berthe à lait.
On va déguster.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today.
seems the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today.
Le lait fourni à des nations entières, principalement aux habitants des montagnes, la nourriture ordinaire, journalière, fondamentale. Les hommes de ces contrées sont gras, lourds, paresseux, stupides, ou du moins graves, sérieux, pensifs, sombres. Il n'est pas douteux que l'usage habituel du lait ne soit une des causes de cette constitution populaire. La gaieté, l'air leste, la légèreté, les mouvements aisés, vifs, vigoureux des peuples qui boivent habituellement du vin, en est le contraste le plus frappant. C'est un texte vraiment saisissant. Je voulais commencer par celui-ci. C'est d'ailleurs un texte que vous citez, Didier Nourisson, dans votre essai du lait et des hommes. Et c'est en fait un extrait de l'article lait de l'Encyclopédie, hein, quand même, publié en 1765. Il montre ce texte de manière édifiante, tout le mépris qu'on avait à une certaine époque pour les buveurs de lait.
Oui, le lait est une boisson de classe. Sous l'Ancien Régime, en tous les cas, alors qu'il n'y a pas de classe officiellement. Mais effectivement, boire du lait, c'est être paysan, c'est être rustre, c'est être grossier. Alors que le vin, j'ai beaucoup travaillé sur le vin, donc c'est une boisson de distinction de personnes qui savent boire et qui savent parler de ce qu'ils boivent aussi.
Hein. Donc les buveurs de vin sont dans la noblesse et les buveurs de lait sont dans la bassesse.
Voilà, très exactement. C'est comme ça que on a vu arriver le lait dans notre société. Oui.
C'est ça. Alors autant le préciser d'emblée, hein, et cette émission, quand on va parler lait, à une petite exception près, grâce à Manon, mais on va parler de lait de vache. On va écarter les autres laits d'animaux, même si on apprend en lisant votre livre cette information très intéressante, c'est qu'en Occident et notamment dans les Alpes, dans le Jura, au départ, c'est principalement du lait de chèvre ou de brebis qui sert à la consommation de lait au Moyen Âge. La vache va s'imposer un peu après.
Voilà, au Moyen-Âge, effectivement, on a plutôt du lait de chèvre et de brebis que de lait de vache, parce que il y a très peu de vaches, que les vaches, quand elles ont un veau, elles le nourrissent. Qu'un veau, ça boit beaucoup, à peu près 10 litres par jour, donc quasiment son poids en lait. Et les vaches, elles donnent par jour également 10 litres de lait. Donc c'est vite vu, il n'y a pas de lait pour les hommes, hein, dès lors. En revanche, à partir du XVIe siècle, en gros, hein, bien entendu, on va avoir un développement des troupeaux de vaches, tout simplement parce qu'on a un développement des communautés paysannes qui peuvent grouper leurs vaches et un peu écarter les veaux du troupeau, de manière à récolter le lait des vaches pour le boire directement ou pour le transformer en fromage.
Donc c'est au sortir du Moyen-Âge que la vache s'est un peu imposée. Alors, Pierre Coulon, les races à l'époque sont pas vraiment identifiées, ni sélectionnées. Peu à peu, on va voir que les vaches prennent d'ailleurs le nom des régions où elles évoluent, où elles sont élevées. Apparaît la Montbéliarde, la Normande, peu à peu, l'Aubrac, la Limousine.
Et toutes celles qui ont disparu, effectivement, fin du 19e, les Anglais commencent, notamment, sont les premiers à faire les herd books, les livres d'élevage. Et on commence à travailler les races un peu partout. Certaines vont survivre, d'autres moins. Ça, c'est un grand, grand sujet.
Mais c'est vrai que la vache n'est pas un animal très maniable, il est assez imposant.
C'est étonnant qu'il y ait 10 000 ans, on se soit dit, face à Bostorus, qui était cet énorme auroch qui devait faire très peur, tiens, on va l'adopter, on va s'en occuper. Chèvre et brebis, je comprends. Je ne me serais pas tenté, personnellement.
Est-ce qu'on pourrait avoir, dès le début de cette émission, une définition du lait? C'est vrai que c'est compliqué, ça revêt énormément de réalité, ça dépend, on l'a dit déjà, de l'animal, mais il y a une réglementation, une loi aussi pour ça.
Oui, alors il y a celle que vous avez donnée, hein, des dictionnaires. Après, on en a une en 1909 du Congrès de la répression des fraudes, parce qu'à l'époque, le lait, c'est un peu n'importe quoi, on y met beaucoup de choses. Qui dit que c'est le produit intégral et ininterrompu de la traite d'une femelle laitière bien portante, bien nourrie, non surmenée, recueillie proprement et sans colostrum?
Ah, donc il y a les conditions d'élevage aussi.
Ouais, 3-4 points là-dessus. Donc, femelle laitière bien portante et bien menée, en France, ça veut dire 6 mètres carrés à l'intérieur. C'est pas pour autant qu'on aura des vaches qui auront accès à l'intérieur. La notion de bien-être animal dans la réglementation est quand même quelque chose d'un petit peu flou. Recueillie proprement et sans colostrum, le colostrum, c'est ce lait que les mammifères ont les 7 premiers jours en général, qui est riche en immunoglobuline, qui fait la défense de celui qui le boit, du petit. En France, il est interdit de consommation. On en fait des fromages et des laits fermentés un peu plus au nord de l'Europe. Et le truc, c'est qu'en France, la France est très coincée là-dessus. Le lait, c'est animal. Pas de lait végétal. Si c'est juste lait, c'est vache. Si c'est une autre espèce, on précise. Mais lait d'amande, lait d'avoine, lait de soja, ils ne veulent pas en entendre parler.
Je regarde Manon, je ne sais pas pourquoi. Elle va nous parler d'un mystérieux lait tout à l'heure.
Oui, alors après, c'est quelque chose qu'on n'aura pas partout et qui n'est pas une évidence pour tous les professionnels du monde laitier, moi le premier.
Très bien. Donc, une définition du lait tout de même assez encadrée, hein, Didier Nourisson.
Oui, alors c'est encadré à partir du moment, comme disait Pierre, où le lait est menacé d'être considéré comme impur. Donc, au début du XXe siècle, hein, on s'aperçoit effectivement que le lait est vendu sur les marchés est plutôt impur, sur les marchés urbains surtout. Et du coup, il faut réglementer ça, et vous avez bien dit que c'est le service de répression des fraudes qui va permettre de faire avancer la législation dans ce sens et à cadrer un petit peu. Ben oui, c'est vrai que le lait consommé par les hommes, c'est du lait de vache avant tout.
On va évoquer dans un instant, Didier Nourisson, les traditions pastorales et paysannes autour du lait. On va voir que le lait est à la base de beaucoup, beaucoup de préparations qu'on mangeait dans nos campagnes. C'est ce que va nous expliquer aussi Elvira, qui est aujourd'hui décidément soupe au lait. Mais juste avant, c'est à partir de quand que la condition sociale du lait s'améliore ? Nourriture de paysans, on a vu tout le mépris que l'on avait pour ceux qui buvaient du lait. Quand est-ce que le lait va, entre guillemets, gagner ses lettres de noblesse ?
Oh, il faut pratiquement attendre le 19e siècle hein, pour voir arriver le lait sur la table bourgeoise, et je dirais grâce à l'opération gastronomie. On est bien placé ici dans cette émission pour savoir ce que c'est que la gastronomie. Eh bien, c'est un fait bourgeois hein, du départ. Et Brillat Savarin, qui a inventé, on va dire, la gastronomie française, eh bien, va commencer par introduire du lait dans les repas. Et c'est par exemple le premier à avoir préconisé comme excellent mets la fondue suisse, par exemple.
Même si le lait a également, s'est également introduit dans la cuisine à la Renaissance, on a commencé à considérer le lait comme un liquide doux, agréable. En plus, il avait la couleur blanc qui pouvait indiquer une certaine pureté, non ?
Alors, oui, le lait à la Renaissance, c'est un lait de douceur. Bon, on est à une époque violente, hein, le 16e siècle, c'est pas franchement très doux, mais on a cherché toujours la douceur par rapport à la rusticité et à la sauvagerie même des temps gothiques, comme aurait dit François Rabelais. Eh bien, on va effectivement insister sur le lait dans les banquets, par exemple. On va voir arriver les dames aussi. Hein, c'est important ce rapport de la femme et du lait. Donc la femme, ange de douceur, va apporter le lait produit de douceur.
Ah oui.
Et je crois que ça c'est un élément.
On était dans des représentations très genrées, c'est ça ?
Oui.
Oui, absolument.
Tout à fait.
Vous évoquez le 19e siècle, c'est à ce siècle qu'on peut situer ce que vous nommez dans votre livre la révolution laitière.
Ah oui, la révolution laitière, commence de manière forte avec le 19e siècle, par l'extension des pâturages, par première sélection des races laitières. Effectivement, on a bien dit que il n'y avait pas de race autre que régionale auparavant, mais là on va avoir des races laitières de plus en plus sélectionnées de manière assez brutale quelquefois. Hein. Et on va surtout voir se mettre en place des usines à lait qui s'appelleront laiterie, qui s'appelleront crèmerie, qui s'appelleront fromagerie, beurrerie, et qui vont offrir sur le nouveau marché, les nouveaux marchés urbains, et notamment dans les lieux de distribution de villes, eh bien, ces produits lactés.
Vous évoquez quelques chiffres dans votre livre. Entre 1875 et 1905, la production nationale de lait de vache passe de 43 millions d'hectolitres à 109 millions d'hectolitres. Et vous insistez sur les progrès techniques qui ont contribué à cet essor du lait, à cette intensification de la production, accélération des transports, mise au point de l'écrémeuse à lait, industrie de la réfrigération et une certaine, ça y est, je lâche le mot, pasteurisation.
Ah oui, évidemment, dès lors qu'on va savoir ce qu'il y a dans le lait, on va pouvoir éventuellement corriger les laits impropres à la consommation ou au contraire accentuer les avantages de certains laits.
Invention de Louis Pasteur qui consiste globalement, Pierre Coulon, à éradiquer les bactéries qu'on considérait comme pathogènes.
À chauffer le lait et donc du coup de par l'action de chaleur. Alors Pasteur dans l'histoire a surtout pasteurisé du vin et de la bière. Hein. C'est en Allemagne qu'on a commencé à pasteuriser le lait.
D'accord.
Et ça a été repris par ses élèves par la suite. On se rend compte qu'en chauffant les aliments, on tue les bactéries qui acidifient et qui dégradent et que les produits se gardent plus longtemps. Attention, au 19e siècle, est-ce qu'il fallait vraiment se taper un verre de lait cru sans le faire bouillir ? J'ai un doute. Hein. On est dans les grands moments d'épidémies, de brucellose, de tuberculose, qu'on appelle les zoonoses, hein, ces maladies que les animaux nous transmettaient. Hygiène, on n'était pas là. Autant aujourd'hui, on peut boire un verre de lait cru sans aucun problème. 19e, je sais pas si je me le serais tenté, personne.
Donc, si vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, un militant du lait cru.
C'est qu'on sait faire.
Vous arrivez à comprendre qu'on ait pu le matraquer thermiquement, entre guillemets, pour le rendre un peu stable et propre à la consommation.
Quand on lit le livre de Monsieur Nourrisson, on se rend compte que c'est des moments où la mortalité infantile, c'était dans les 30%. Il y a quand même un effort de santé publique à faire sur des produits qui étaient quand même un poil dangereux, qu'ils sont plus maintenant.
Et puis un mot peut-être aussi sur toutes ces considérations hygiénistes, médicales, autour du lait. Alors on va parler de la révolution du lait au XXe siècle, à partir des années 1950. Mais le lait s'impose peu à peu comme un alicament ou comme, on va dire, un ingrédient nécessaire à la santé de l'homme.
Ah oui, très vite, hein, les hygiénistes du 19e siècle vont promouvoir la consommation de lait, des laits, soit pour soigner des maladies, la plus terrible étant la tuberculose. On proposait de boire du lait de chèvre aux tuberculeux, soit tout simplement en prévention, en quelque sorte, d'éventuelles maladies, pour renforcer la croissance des enfants, pour favoriser la bonne santé, hein, ce qu'on commence à appeler la santé, tout simplement.
On va faire un petit flashback et on revient à la douce époque où le lait était la base de certains régimes alimentaires pastoraux ou paysans, avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Un tout petit point sémantique sur soupe au lait quand même.
Ah, je l'attendais.
Alors l'étymologie n'est pas forcément très claire, on dit que ça daterait du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais c'est d'une simplicité biblique, tout simplement comme le lait ou la soupe de lait monte très très vite dans une casserole, elle redescend aussi sec, de la même manière que le tempérament d'une personne très émotive, qui s'emballe un peu vite.
Qui se sent soupe au lait autour de ce plateau?
Il y a une petite dimension de susceptibilité aussi dans
d'accord.
Le ah, quoi que je ne sais pas si c'est l'humeur de l'analyse.
Ah, voilà, il y en a certains qui se sentent visés, c'est ça?
On transformer l'émission en émission de développement personnel, sinon. En réfléchissant à l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit que les occasions de cuisiner avec du lait se sont perdues ou un peu évaporées dans le temps à mesure que notre consommation de lait a baissé. Ça paraît assez logique. Alors bien sûr, on utilise encore du lait au quotidien en cuisine pour certains gâteaux. Je pense au clafoutis, pour faire de la pâte à crêpes, du pain perdu. Pour certains et certaines, on en met un peu dans la purée de pommes de terre. On fait toujours de la béchamel quand on en fait. On poche un haddock. Il y a bien encore le gratin dauphinois. Mais enfin, il m'a semblé que la cuisine au lait avait comme un petit parfum de nostalgie, que j'aime bien. Et comme je fais pas mal de soupe en ce moment, et que la soupe est un terrain de jeu infini, je me suis penchée...
Vous êtes décidément d'ailleurs réconcilié avec la soupe. Hein.
Ah oui, j'adore ça, oui.
Il finalement a fallu quelques années.
Je croyais que c'était ennuyeux, mais soupe, c'est une palette infinie.
C'est passionnant.
Et c'est amusant, oui. Ben, je me suis penchée justement sur le sujet de la soupe de lait, ou soupe au lait, que l'on pratiquait, je pense, en France, dans toutes les régions où il y avait des fermes d'élevage. Mm-hmm. Ça pouvait être un apprêt très simple. Dans la Sarthe, par exemple, on pratiquait la miautée. Chacun la faisait dans sa propre assiette creuse. C'est pas vraiment une soupe. On avait une assiette creuse. On y versait des morceaux de pain rassis. On les disposait, on arrosait de lait froid. Certains y ajoutaient un petit peu de sel ou du sucre. C'était rafraîchissant les soirs d'été. Les adultes remplaçaient le lait par du vin. Ça s'appelait une trempée, alors. En Bretagne, on pratiquait aussi la soupe de lait, mais une soupe de lait aux oignons. Quelques oignons revenus dans du beurre, du lait entier cru de la ferme, du pain rassis. C'était pas une soupe passée, on la mangeait comme ça, avec ses morceaux et ses filaments d'oignons. Je me suis souvenue aussi d'une recette d'Alain Passard, ou plutôt de la recette de sa grand-mère Louise, qui lui préparait dans son enfance en Bretagne, toujours. Cette soupe faite d'échalotes mises à suer avec un blanc de poireau, une pomme, dans du beurre, recouvert de lait cru, cuisson frémissante pendant une trentaine de minutes, et à la fin, elle ajoutait quelques feuilles d'oseille, et elle cassait des œufs, elle comptait quelques minutes, elle le servait comme ça.
Extra, j'aimerais bien goûter ça.
Ouais, on mangeait ça avec du pain de campagne grillé, selon la Passard. C'était à la fois très simple et très pensé, et très différent d'un répertoire un peu répétitif, mais assez large quand même.
C'est aussi très breton.
Hein, c'est très breton. Ah oui, mais son enfance était en Bretagne. Ouais.
Didier Nourrisson.
La Bretagne est vraiment le haut lieu de la production de lait et des produits lactés, enfin surtout le beurre et la crème. Mais on a vraiment une tradition du lait comme tradition du goût.
Mais c'est je pense qu'on pourrait trouver un répertoire de recettes de cuisine au lait en Bretagne, ça serait intéressant.
Bah, il se sent un peu visé, le jeune homme. Pierre Coulon, il a des origines bretonnes.
Ouais, non, alors moi,
il va nous raconter une petite torture d'enfance.
J'aurais préféré avoir l'enfance d'Alain Passard, clairement, quand j'entends la recette, parce que moi, j'ai des souvenirs de ma mère certains dimanches soirs qui, sûrement un peu par flemme, essayait de nous faire manger un truc qui s'appelait le grou. Et alors c'était soit de l'eau et de la farine de sarrasin, soit du lait et de la farine de sarrasin, tout en nous faisant un peu culpabiliser avec ma frangine, comme quoi fallait bien finir l'assiette, parce que c'est ce que mangeait mamie, alors que nous on voulait des knackis, clairement. Et donc c'était le grou, et j'en reparlais avec elle hier, et c'est vrai qu'on se moquait quand même beaucoup.
Mais grou, c'est un gruau en fait.
Ouais,
étymologiquement, j'imagine.
Une noix de beurre, 300 grammes de farine, 800 grammes de lait ou d'eau, et hop, ça fait une bouillie pas folle, mais voilà.
C'est, donc
ça
c'est pas vraiment votre madeleine d'enfance.
Ah ouais, non, clairement pas.
C'est une manière d'utiliser le lait en excédent qui allait tourner de toute façon.
Absolument.
Bien sûr, on jetait rien. L'enfance de Pierre est plus proche d'une enfance de pays de l'Est, où effectivement il y avait un énorme répertoire de soupe de lait. En Estonie, on mange encore aujourd'hui la macaroni pima soup. Je dis pi parce qu'il y a deux i, hein, comme souvent dans cette langue. Une soupe de lait au macaroni, un plat du quotidien, un plat que les enfants estoniens ont mangé toute leur enfance dans les cantines de l'époque soviétique. En Pologne, on mangeait une zupa mleczna, une soupe de lait garnie de nouilles aux œufs, genre spätzle. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de recette de ce type en Alsace. Donc, si, amis auditeurs, si vous avez des recettes de soupe de lait au spätzle en Alsace, ça m'intéresse. J'ai pas trouvé. Et cette zupa mleczna est typique de ce qui se servait dans les bars à lait polonais. Ces petits restaurants qui remontent à bien avant l'époque soviétique, enfin, à l'époque communiste, mais qu'on associe pourtant à cette période. Des restaurants où l'on servait à bas prix des repas à base de farine, d'œufs et de lait. Alors, sous le communisme, ils se sont apparentés à des restaurants solidaires de type soupe populaire. J'ai découvert que dans les années 30, les bars à lait ont essaimé également en Grande-Bretagne. C'est les milk bars. Et en Suède, ce que j'ignorais, les Mjölk Bar. Leur mission y était moins solidaire qu'éducative. C'était presque des lieux de lobbying sur les vertus du lait pour les enfants et les adultes. La vertu du lait, justement, ce pourrait être le sous-titre ironique d'un film de 2019 qui est diffusé depuis quelques jours sur Arte, un film islandais de Grímur Hákonarson qui s'appelle Mjölk, la guerre du lait. Dans un petit village islandais après le suicide de son mari, Inga reprend seule la ferme laitière familiale qui croule sous les dettes et découvre que l'exploitation est littéralement étranglée par la coopérative locale, son monopole et ses pratiques mafieuses. Elle déclare la guerre à ce système et le film fait le récit de son combat, de sa solitude puis de la solidarité qu'elle arrive à faire naître. C'est très fort ce film, le combat de cette éleveuse, veuve, seule dans un monde d'hommes, qui part en guerre contre la perte des idéaux et l'ultralibéralisme qui étouffe le monde paysan. Parce que le lait, c'est aussi ça, c'est aussi la réalité d'une très grande souffrance. Donc Pierre pourra nous parler, je pense.
C'est prévu au programme, Pierre va nous en parler dans un instant. Vous nous rappelez les
Mjölk,
références
Mjölk, la guerre du lait de Grímur Hákonarson jusqu'au 10 mars sur Arte.
Et télécharger l'appli d'Arte, moi je suis fourré en permanence, il y a des documentaires,
des pépites en permanence,
des longs métrages.
Et ce film est magnifique.
Une appli remarquable. Vous aviez entendu parler de ce film ?
Non.
Alors, sur cette problématique ?
Non, pas du tout.
D'ailleurs, pour juste revenir sur les traditions paysannes, il y a un chapitre fort intéressant de votre essai, Didier Nourisson, du lait et des hommes, aux éditions Vendemiaire. C'est le chapitre sur les laitages paysans. Vous y évoquez notamment une tradition, un savoir-faire qu'on avait déjà évoqué il y a très longtemps à ce micro, la fromentée qu'adorait Georges Sand.
Oui, dans la région centre, hein, dans le Berry, effectivement, on avait l'habitude de mêler à une bouillie de froment du lait, tout simplement, et Georges Sand, qui aimait faire la paysanne dans son château, hein, en quelque sorte, eh bien, elle adorait la fromenter et en faisait goûter à tous ses amis parisiens qui venaient la visiter, d'ailleurs.
Et Dieu sait si elle recevait du beau monde, hein.
Oui, il ne buvait pas que de la fromentée.
Oui, on s'est intéressé à la question, il y avait des dîners extraordinaires, et puis vous évoquez également une spécialité dont j'ignorais l'existence dans le Forez, enfin non, pardon, le Forêt, sinon je vais me faire, le Forêt, on ne prononce pas le Z final, le Mimi, bouilli de farine au lait. Là aussi, on était vraiment dans ces traditions.
Ouais. Et il s'agissait de caler l'estomac avant de reprendre un boulot qui était dur quand même. Hein. Les paysans des monts du Forêt, c'était rude. Hein.
Et puisqu'on est au rayon de ce mariage entre le lait et la céréale, Pierre est à la plaque de cuisson dont on va déguster pour nous préparer sa petite recette qu'on a un peu oubliée. Hein. Lait et semoule. Et Pierre va évoquer avec Didier Nourisson dans un instant la façon dont ce breuvage blanc broie du noir aujourd'hui.
We'll be right back.
By My When, une chanson, le dernier titre de Delgrès pioché sur la playlist de France Inter, le lait, son histoire, sa consommation, ses recettes, c'est notre menu du jour.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Ah ça y est, c'est prêt, Pierre arrive sur notre plateau avec sa marmite.
4 minutes.
Racontez-nous ce que vous avez fait pendant ce disque.
Alors, j'ai pris 1 litre de lait, j'ai mis 70 grammes de sucre, moi je sucre jamais trop, et plein de vieilles gousses de vanille, je fais toujours ça, je les récupère, je les rince, je les fais sécher, je les réutilise 10 fois. J'ai porté à ébullition, j'ai balancé ma semoule, j'ai brassé 4 minutes.
Semoule fine,
ouais.
Ah,
pas forcément complète, ça ramène plus de goût de céréales, là je voulais garder le goût du lait et de la vanille. En fait, à ce stade-là, on peut la manger, elle est encore liquide. Faut faire gaffe au dosage parce que le lendemain, je vous en ai ramené, j'en ai fait hier, dans des petits pots, et on voit que au bout de 24 heures de froid, c'est déjà quand même devenu beaucoup plus dur. L'amidon a fait son job en fait.
Bah disons que ça a une texture onctueuse, bah qui est très particulière. Comme si la céréale avait lâché un peu son gluten et du coup ça...
C'est le truc le plus simple du monde à faire. Autant les yaourts c'est compliqué, alors autant
là,
la semoule...
Ça n'a rien à voir avec le riz au lait justement.
Ah oui non, puis c'est le level zéro de la cuisine, c'est comme cuire des pâtes. Hein.
Et en même temps c'est très délicat.
C'est enfantin, il y a un côté un peu...
Très réconfortant.
Oui, et super pas cher, ça j'y tiens aussi, voilà, 2 euros.
On utilise évidemment du lait cru.
Du lait cru ou du lait entier qui paye les producteurs, et il peut être pasteurisé.
Eh ben venons-en.
Et encore mieux, faites-le faire à vos enfants.
Voilà, très bonne idée Didier, très bon réflexe. Vous avez parfaitement raison. On en vient malheureusement à cette réalité un peu sombre. Sans jeu de mots, j'ai envie de dire que c'est un peu laid ce qui se passe dans le lait.
Oui, alors un peu lait est très très compliqué. En fait, la brique de lait bleu qui va s'imposer, je pense que c'est les années 60 qu'elle va commencer à arriver sur le marché, se décline en grande distribution avec énormément et beaucoup trop de communication. Parce qu'on sait que la naturalité, on sait que le bien-être animal et que le commerce équitable, ça fait plus vendre que la belle bio dans les critères de communication. Donc on nous en vend partout.
Vous avez joué le jeu, il faut le dire à nos auditeurs. On vous a envoyé en quelque sorte en mission dans un supermarché lambda à Paris.
J'ai beaucoup traîné dans beaucoup de
plusieurs même. Ouais, d'accord. Oui, et vous nous avez rapporté trois briques et une bouteille.
Alors, les leaders du marché, en fait, il faut comprendre qu'on a les géants laitiers, donc Lactalis derrière la marque Lactel et Sodiaal derrière la marque Candia, qui se partagent très clairement tout le rayon. Avec une communication de paysans heureux, donc là je vois, cette brique contribue à une meilleure rémunération, 40 centimes d'euros le litre. En fait, il y a toujours un peu ce truc-là quand on achète du lait. Des fois, on paye un peu plus et ça paye bien une partie des éleveurs. Et puis, en fait, le reste est quand même valorisé à 36 centimes. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la marque préférée des Français. C'est compliqué, hein, c'est qui le patron? Parce que l'idée, elle est louable. Ah. Encore une fois...
Rappelez-nous, c'est qui le patron? Comment c'est né?
Ah ben, on les a vus partout. Et oui, encore une fois, quand on voit des gens qui ont des tels moyens de communication, moi, je me pose toujours des questions. Après, ils ont un site internet qui est lisible et c'est l'avantage. Donc, une marque créée par des consommateurs qui font leur cahier des charges. Alors, moi, j'ai rien contre les naïfs qui nous disent comment on doit élever les animaux, mais à un moment, c'est quand même un peu à m'énerver, qui détermine un prix de lait. J'aime bien les gens qui s'y connaissent en comptabilité agricole. Et on a ce produit qui arrive. Le problème, c'est que cette marque, en fait, alors, on lui doit beaucoup quand même, malgré tout. Elle avait sauvé des éleveurs qui s'étaient fait dégager d'une grande laiterie après l'envoyé spécial sur Lactalis. Mais, comme elle a pas de site de production, a fait appel à des gens. Sur le lait, c'est pas si pire. C'est une laiterie indépendante du centre de la France. Par contre, derrière le beurre, c'est qui le patron? Bah, il est fabriqué par Sodiaal. C'est-à-dire que quand on va acheter une plaquette de beurre, c'est qui le patron? Peut-être qu'on va la payer plus cher et que 3% des éleveurs de la COP vont être mieux payés. Mais après, on continue quand même, malgré tout, à négocier avec les gens qui nous pètent l'agriculture paysanne. Donc moi, je trouve ça compliqué aujourd'hui de choisir un rayon lait. Je pense à mes parents qui ont pas une grande culture de l'enquête alimentaire, ce qu'on devrait tous avoir, et qui se font couiller clairement en pensant que tel groupe est bio et engagé, alors que non, il ne l'est pas vu ses pratiques. Là, je vois que ça respecte la biodiversité, que des vaches sont nourries sans OGM. C'est quand même les modèles agricoles qui nous ont imposé l'agriculture intensive, l'ensilage, la monovache, la pauvre Holstein. C'est dur de lui en vouloir parce que ça reste une vache qui a des jolis yeux, mais ils nous ont cassé les prairies naturelles, les petites races locales. Donc faut arrêter.
Il faut un peu le pompier pyromane, quoi, en fait.
Ouais, voilà. Et puis il faut arrêter de mentir aux gens. Faut mettre les choses claires. Moi, si je mettais vraiment la vraie communication que j'ai à dire sur ces géants laitiers, sur cette brique de lait, les gens vomiraient devant les rayons de lait.
Oula,
ouais.
Oula.
Oh oui, clairement.
Quel lait faut-il choisir alors dans ce paysage si on veut boire du lait?
Très très dur. Effectivement, sur le lait cru, c'est toujours louable. Quand on va voir les offres en lait cru qu'on a dans les magasins bio, les petits producteurs, les crèmeries fromageries, mais qui se gavent en termes de prix. Un litre de lait, ça coûte pas 3 balles. Il y a un moment, faut arrêter. C'est un produit quand même du quotidien. Mais le lait cru, ça, malgré tout, est assez rationnel. Mais c'est compliqué à gérer. Ça se garde que 3 jours. Il y a des initiatives, mais qui ne sont pas claires. Je connais, par exemple, Gillot, la fabricante de camembert, qui fait le lait pour Franprix, mais c'est pas assumé comme étant Gillot. Donc en fait, faut à chaque fois regarder derrière les étiquettes, regarder les numéros d'agrément pour s'y retrouver. Plus on est au proche du producteur, plus ça le paye, moins on est sûr de se faire avoir. Puis en fait, j'aurais tendance à dire un truc très simple, moins il y a de com' sur votre bouteille de lait, mieux c'est. Hein,
ah, Didier Nourisson.
J'aurais quelque chose à ajouter, c'est bien que sûr. Pour les étiquettes, pourquoi ne voit-on jamais la race de vache qui a donné ce lait? Ça changerait beaucoup, hein, si on avait...
On la voit. La Holstein est représentée, oui. Hein, quand même, 60% des...
Alors là on évoque la prime Holstein.
Oui.
Alors, à 80%,
c'est cette race laitière, hein, qui s'est imposée, qu'on a souvent considérée d'ailleurs comme une pisseuse de lait.
Et qui donne...
Et qui est l'emblème, c'est ce que vous dites dans votre livre, pour que les auditeurs s'y retrouvent, qui est l'emblème de ce que vous appelez le productivisme lactarisé.
Exactement, oui, parce que la prime Holstein, elle va vous donner 35 litres de lait par jour en 2 traites, alors qu'une vache d'abondance ou une tarine va vous en donner 20. Mais c'est pas du tout le même lait. On a l'impression que c'est plus du tout le même lait. Et j'allais plaider aussi pour les vaches, parce que j'aime beaucoup les vaches. Sauvons les vaches. On se rend compte, Pierre Coulon laissait entendre tout à l'heure, qu'il y a une extinction de multiples races. Par exemple, on s'aperçoit qu'il y a une race qui était très bonne en Auvergne. Je suis originaire d'Auvergne. Mm-hmm. Donc, qui s'appelait la Ferrandaise.
Oui.
Eh bien, essayez de trouver, comme Clément Ferrand, bien sûr. Hein. Donc, la Ferrandaise, eh ben, aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein, parce que la prime Holstein a tout emporté.
Mais alors, à l'inverse, on assiste à une rediversification des laits, quand même. Vous-même, vous en êtes un exemple. Oui, vous produisez, rappelle.
On a encore des...
Vous produisez du camembert.
Oui,
à camembert.
Dans le Calvados.
Voilà, vache normande. Ouais. La vache normande, on était assez pessimiste sur son avenir il y a quelques années.
Ça reste la troisième race de France, hein. Elle est pas en danger aujourd'hui, la Normande. Après, cette Holstein, c'est les hommes qu'on en fait n'importe quoi. J'aime pas entendre du mal de cette vache, on entend parler de pisseuse de lait. Ça fait 100 ans qu'elle est en France. Je connais des fermes où c'est des fermes qui l'ont vécu sur 3 générations et elle est déjà dépassée. Aux États-Unis, on travaille la Jerseyaise, la Brune des Alpes, parce que la Holstein, génétiquement, dans 10-15 ans, elle sera plus une vache qui sera utilisée. C'est toujours ça le truc, c'est qu'on va avoir d'un côté une agriculture qui est vertueuse, qui fait l'effort de races anciennes, avec des produits qui par contre sortent plus cher. Et puis, de l'autre côté, un modèle de productivisme qui a jamais été heureux ni pour les hommes ni pour les animaux.
Digne Nourisson, dans votre essai du lait et des hommes, vous mettez justement, vous replacez ce que vous appelez un peu la vague blanche ou l'économie lactarisée au XXe siècle dans une perspective historique. Comment ça a basculé? Est-ce que ce serait pas à la faveur de quelques acteurs industriels, qu'évoquait d'ailleurs Pierre Coulon, et qui se sont un peu arrogés finalement ce business du lait avec tout ce que cela comporte d'intensification de la production, mais également de lobbying et de propagande?
Alors, exactement. Et je crois qu'il faut partir de ce mot, de ce dernier mot, propagande.
Oui.
C'est-à-dire qu'on voit une espèce d'alliance qui s'établit après la Seconde Guerre mondiale entre les politiques, parce que les politiques sont là, hein, bien présents, qui vont faire de la propagande en faveur du lait pour relancer la croissance de la population. On sait que la guerre a été évidemment négative pour cette croissance. Donc, on va relancer la santé des populations françaises par la consommation de lait de manière tout à fait officielle, hein. Le prototype du politique laitier, si j'ose dire, c'est Pierre Mendès France. Et puis, cela va converger avec la montée en puissance des grands groupes laitiers dont on parlait à l'instant, qui vont effectivement injecter beaucoup d'argent en publicité jusqu'à l'école. La propagande n'est pas interdite à l'école, par contre la publicité commerciale l'est. Oh, c'est un vilain jeu de mots encore une fois, mais il me semble que on peut vraiment noter cette complicité qui s'établit entre le politique et l'économique au sujet du lait.
Ah, là, vous évoquez notamment l'aventure industrielle d'un certain Nestlé.
Nestlé ou Lactalis, hein. Quand je parle de lactariser l'économie, effectivement, je fais allusion forte à l'opération Lactalis. Nestlé, c'est déjà antérieur.
C'est ça.
Dès le milieu du 19e siècle, on avait la constitution du groupe Nestlé. La constitution du groupe Lactalis, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle.
Et j'apprends dans votre livre que bien avant ces années 1950, où vraiment la consommation de lait a augmenté avec cette fameuse propagande que vous évoquez, en 1932, le ministère de l'Agriculture met sur pied un comité national de propagande du lait, des beurres et des fromages. Ouais. La première journée du lait se déroule le 26 mai 1934.
Mais on a le CNIL encore, hein, qui fait très bien son boulot. Salon de l'agriculture Hall 1, vous y verrez du bar à lait, de bon vieux lait touillé à toutes les sauces. La propagande du lait, elle est encore active, même dans les écoles.
Et visiblement, la consommation de lait conditionné ne cesse de baisser en France, hein. On l'a dit, chaque année, ça baisse, sauf peut-être l'exception de 2020, mais qui était liée à la consommation de lait avec le confinement. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que la coopérative Sodial, qui collecte quand même 20% du lait français, a annoncé, il y a quelques jours, son plan d'adaptation à un contexte du marché difficile, en fermant plusieurs sites et en licenciant plusieurs centaines de personnes.
Alors, il y a ces arguments sont bien sûr justes. Seulement, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'en fait, la consommation de lait brut diminue, mais pas la consommation de fromage. La consommation de fromage, à ma connaissance, n'a pas vraiment diminué. Hein.
C'est ça. Il y a aussi la question de la rémunération des producteurs de lait.
Alors, la question de la rémunération, aujourd'hui, on est face à un problème qui est plus vaste. C'est-à-dire que même les filières qui sont louables ont de la difficulté à vendre leurs marchandises. Donc, on va avoir effectivement les géants laitiers, mais qui s'en tirent bien. 90% de la nourriture en France, c'est la grande distribution. La grande distribution et le discount vont bien. Mm-hmm. Moi, je suis plutôt inquiet par les volumes de lait bio qui sont produits et qui ne trouvent pas preneur.
Alors ça, c'est une réalité. Crise aussi du lait bio?
Ah oui, les Français, pendant le confinement, ont cuisiné et se sont reportés sur les productions de qualité. Mais maintenant que la vie revient à la normale, on voit que le lait bio, les œufs bio, les petits producteurs, le petit commerce, pour des raisons effectivement financières, sont quand même beaucoup moins sollicités. Et ça commence à avoir un impact maintenant. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en campagne et dans les villes, cette baisse de chiffre d'affaires qui défend des petits systèmes intéressants impacte clairement les structures.
Ça veut dire que les éleveurs bio commencent à produire de plus en plus de lait bio que le marché ne peut plus absorber. Résultat, certains producteurs renoncent à se convertir parce que ce trop-plein de lait bio finit par fragiliser la filière, en fait.
Oui, et puis ça baisse le prix, surtout. S'il y a trop de lait et qu'il est valorisé en conventionnel, le prix du lait bio risque de baisser, et ça, c'est très dommage.
Et est-ce que la diminution du lait transformé, du lait en bouteille, ça pourrait s'expliquer, on vient tout doucement vers Manon Fleury, par notamment la concurrence de ce qu'on appelle, mais qu'on n'a pas le droit d'appeler, les laits végétaux?
Les laits végétaux qui ont fait un vrai boom depuis ces 20 dernières années, qui sont pas non plus totalement déconnants en termes de santé, qui sont faciles à réaliser à la maison. Donc si on doit lever le pied, boire un peu moins de lait et broyer des amandes dans l'eau, et que ça a un impact écologique qui est plus intéressant et qu'en termes de santé ça va, buvons moins de lait. De toute façon, moi j'ai du mal à en acheter du bon là. Hein.
Ouais. Et où buvons éventuellement aussi du lait alternatif, on va voir comment on peut l'appeler. Petite démo culinaire de notre chef chroniqueuse Manon Fleury.
On va déguster. Sur France Inter.
Quand on revenait de l'école, elle nous avait préparé ces fameuses tartines avec la peau de lait qui nous attendait sur la table, soit avec de la gelée de groseille dessus, ou soit avec de la poudre de chocolat. Cette tartine de peau de lait qui a codifié un peu toute ma gourmandise, parce que cette peau de lait, je l'ai retrouvée après chez mes beaux-parents. Ma belle-mère faisait un 4/4 où elle remplaçait le beurre par la peau de lait. Et ce 4/4, il avait un goût qu'un 4/4 n'a pas. Surtout que cette peau de lait, bon, il faut la recueillir au quotidien et puis elle se maturait un peu. Elle prenait une saveur autre que quand on la traite fraîche.
J'ai reconnu cette voix.
Oui, c'est la voix de Michel Bras. Extrait de l'émission À voix nue de France Culture, l'épisode 1, Le goût de l'enfance. Je vous invite à réécouter cette série magnifique où Michel Bras raconte son parcours. Je pense aussi au film Entre les bras, où on voit justement Michel Bras parler de cette madeleine d'enfance qu'il a avec son fils. Je me souvenais de ce moment autour de ces pots de lait qu'on vient récupérer au-dessus du lait, de ce moment de cuisine en fait, qui me parlait beaucoup, alors que je n'ai jamais bu de lait pendant mon enfance, oui. J'en utilise très peu dans ma cuisine. Mais cette texture de pot de lait mouillée, grasse, avec un goût très sucré, presque de caramel en fait, m'a toujours intriguée.
Et ça peut même écœurer. Hein.
C'est un peu écœurant, ouais.
Il y a beaucoup de gens que ça dégoûte.
Et oui, qui enlevaient carrément la peau de lait du bol. Hein.
Exactement, il y a des gens que ça dégoûte et des gens qui adorent ça, pour qui c'est une vraie madeleine. Donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant de voir que c'était quelque chose qui divisait en fait. Et je trouve ça assez intéressant en cuisine de remettre au goût du jour comme ça des techniques qui sont pas forcément aussi très utilisées par les grands chefs, qui sont plutôt des choses qu'on avait l'habitude de voir plutôt à la campagne. Hein. Moi, je suis plutôt une fille de la ville et j'ai pas vu beaucoup ce genre de choses dans mon enfance.
Et la campagne de Michel Bras, rappelons-le, c'est l'Aubrac, hein, l'Aïeul, où le restaurant familial est situé.
Donc moi, j'ai voulu m'intéresser à une autre peau de lait. Je suis allée chercher ça en Asie. On en a parlé, François Régis, en préparant cette émission. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher des savoirs comme ça dans des techniques étrangères et de les apporter en France et essayer de les refaire avec des produits locaux et français. Donc en fait, j'ai découvert cette peau de lait qui est en fait appelée le yuba, qui est une peau de lait confectionnée avec du lait de soja. Il faut savoir que, comme vous le disiez plus tôt dans cette émission, on n'a plus le droit depuis 2017, ça a été interdit par la Cour de justice européenne, d'appeler le lait de soja, pour proprement parler lait, mais boisson de soja ou jus de soja. Moi j'aime bien l'idée de jus de soja parce qu'en fait, quand on fabrique du lait de soja ou donc une boisson à base de soja, on vient tremper des fèves de soja et ensuite les cuire pour les mixer. Donc en fait, c'était un vrai jus de soja. Je vais pas m'étendre sur la confection du lait de soja parce que je vous ai mis la recette sur le site de France Inter. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir plus de goût quand vous allez faire votre yuba. Et je trouve que ça fait une yuba plus épaisse, plus grasse aussi.
Qu'en utilisant du lait de soja de magasin bio.
Exactement. Là où j'ai été étonnée, c'est que je ne pensais pas, dans les rayons aujourd'hui des magasins bio, on trouve du lait de soja bio avec du soja bio français. Il faut savoir que la France est le deuxième pays producteur de soja, dont 28% est bio. Donc je pense qu'on progresse sur ce plan-là. Et il faut savoir que la culture de soja, c'est aussi très intéressant dans l'agriculture. Ça vient en général enrichir les sols. Voilà, moi j'ai pas mal de producteurs de céréales qui me parlent autour de moi et qui me disent que c'est assez intéressant dans un cycle agricole. Mmh. Et donc pourquoi confectionner ces yuba, vous allez faire chauffer le lait de soja, donc ça fonctionne tout à fait avec du lait que vous allez acheter dans un magasin plutôt biologique, et donc vous allez faire chauffer très doucement ce lait pour l'amener à frémissement. Vous allez ensuite le mettre au bain-marie dans un plat, donc vous posez votre plat sur une casserole et vous allez attendre à peu près entre 7 et 10 minutes que vienne se former une fine pellicule à la surface du lait. Et donc vous allez prendre à l'aide de soit une baguette, soit un pic à brochette, cette fine pellicule que vous allez récupérer en plaçant votre baguette en dessous de la fine pellicule. Et donc vous allez récupérer cette peau que vous allez pouvoir égoutter.
Il faut quand même raconter à nos auditeurs qu'on a affaire à une espèce de voile, joli, de drapé, hein, cassant, de couleur beige clair. Ça, c'est le résultat de ces expérimentations.
C'est très brillant, c'est très joli. Hein.
Et c'est très fin. Et en fait, il faut savoir qu'en Asie, c'est une pratique qui est très développée. On trouve même au Japon des usines à yuba où on produit de manière presque industrielle ces feuilles qu'on intègre traditionnellement dans la cuisine japonaise, mais aussi asiatique.
Ça peut servir à l'apéritif, ça?
Ça peut tout à fait servir à l'apéritif. Ce que vous mangez là, c'est la version séchée. Donc, quand vous récupérez donc cette feuille et que vous l'avez fait égoutter, vous pouvez soit vous en servir de manière fraîche. Là, je vous ai fait un petit rouleau
J'ai enroulé du chou frisé. Je trouvais que le chou frisé, c'était rigolo parce que ça avait la même texture que la feuille de yuba quand elle est un peu fripée. Oui. Donc en fait, j'ai enroulé cette feuille de chou frisé avec la feuille de yuba fraîche à la manière un peu d'un rouleau de printemps.
Exactement.
C'est exactement la même technique. Là, vous pouvez la manger comme ça, nature, avec ce chou à l'intérieur. Mais j'ai fait aussi une petite pâte de piment et noisette dans laquelle vous pouvez le tremper si vous trouvez ça un peu fade. Moi, j'aime bien de manger nature parce que, exactement, la pâte de piment est un peu relevée et je trouve ça intéressant d'avoir ce goût de soja concentré, aussi très sucré finalement, comme la peau de lait dont on a le souvenir.
Et avec une texture, pour le coup, à l'état frais, c'est super intéressant, très élastique.
Très élastique.
Et très séduisante sous le palais. Oui. Alors que quand vous la faites sécher, on a vraiment affaire à du crispy, quoi. Enfin, croustillant. Le croustillant d'une chips.
Exactement. Donc, je l'ai fait sécher pendant 2 à 3 jours. Et ensuite, je l'ai récupéré et je l'ai fait frire dans de l'huile à 180 degrés. Ça fait penser au chicharrones. Donc, aussi à la peau de cochon. Ça a quelque chose de très viandard. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi intégrée, le yuba, dans la cuisine végétarienne bouddhiste, en remplacement de la viande. Et moi, je trouve que cette texture...
Il y a un côté umami, là.
Il y a un côté très umami. Il y a une texture très intéressante. Et enfin, vous avez un petit bouillon à base de champignons dans lequel j'ai fait réhydrater les yuba séchés. Et en fait, en Asie, on s'en sert comme presque comme un champignon séché. Et on le réhydrate dans des bouillons. Quand je l'ai goûté, j'ai trouvé que ça a vraiment une texture de champignon très intéressante. Et j'avais envie de l'associer aux champignons.
Alors, vous en pensez quoi, Pierre? C'est incroyable, ça.
Alors, je suis content que ce soit pas de la peau de lait. J'avais très, très peur. Moi, je suis team peau de lait dégoûté. C'est génial, le côté peau de poulet. Alors là, ce qu'on vient de boire, tellement bon, ça.
Et c'est frais. Et c'est rafraîchissant.
C'est très frais. En fait, j'ai pas retravaillé sur la peau de lait de vache à proprement parler, mais je pense qu'avec le soja, on a quelque chose de plus léger, de plus aérien et de plus digeste, du coup, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on se rend compte qu'en France, il y a presque 30 à 50% de la population française qui digère de manière partiel le lait, et je pense que ça pourrait être intéressant de trouver des alternatives comme celle du soja pour le remplacer.
Alors soyons clairs, il ne s'agit pas du tout de s'opposer à la consommation de lait, mais il est vrai qu'il y a un problème de santé publique par rapport à la digestion du lait, Pierre Coulon.
Oui, alors après, faut voir de quel lait on parle. Aujourd'hui, quand je suis devant mes briques, là, je suis devant des produits qui ont été totalement craqués et finalement ultra transformés. Un litre de lait qui arrive aujourd'hui à la laiterie, il est totalement écrémé, il est pasteurisé, on va réinjecter la crème pour être dans les bons taux légaux. On peut y rajouter de la vitamine A, la vitamine D. Quand on voit la liste d'ingrédients, on est très très loin du truc qui sort naturellement du pis. Alors les intolérances au lactose, effectivement, se multiplient. Du coup, on a ces offres, un tiers des rayons parisiens, c'est aujourd'hui, c'est du sans lactose. Et qu'est-ce qu'on met dedans? La lactase, une enzyme qui est produite par des levures. Bon, ça reste quand même des trucs qui sont très manipulés.
On peut bien entendu retrouver les recettes de Manon Fleury à base de lait de soja, mais Manon Fleury n'est pas fâchée non plus avec le lait de vache.
Pas
la preuve
tout. J'ai fait une petite crème aux œufs et au lait, parfumée à la fleur d'oranger et au cédrat confit.
En utilisant un certain lait.
Le lait cru de la laiterie de Paris.
Et c'est délicieux.
Divin.
Oh bon.
C'est à retrouver sur franceinter.fr, oui. À la page On va déguster.
Exactement,
Manon.
Oui,
merci.
Vous avez toutes les recettes.
Très très belle démonstration du jour, signée Manon Fleury, qui a décidément un talent immense.
Mais pour revenir sur la dégustation...
Parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Pour revenir à la dégustation, moi il me semble que on devrait fermer les yeux quand on absorbe un produit et imaginer le rapport de l'homme à ce produit. Un rapport qu'on a eu tête à tête avec une vache ou un voyage au Japon qui pourrait permettre comme ça de bien goûter vraiment au sens fort et j'allais dire presque noble du terme.
En tout cas, si on veut poursuivre l'exploration du lait, décidément cet objet alimentaire passionnant, il y a votre livre, Didier Nourisson, Du lait et des hommes, histoire d'un breuvage nourricier de la Renaissance à nos jours, aux éditions Vendémiaire, et c'est vraiment un voyage historique avec des considérations patrimoniales, symboliques, religieuses, culturelles, économiques, médicales. Vraiment, je me suis régalé à sa lecture. Un grand merci d'être venu nous apporter vos lumières. Et puis, Pierre Coulon, qui a aussi fait d'autres recettes qu'on peut retrouver sur le site de franceinter.fr à la page On va déguster, notamment une petite spécialité orientale.
Ah, le moule à biais, je suis fan.
Je crois que vous n'êtes pas le seul.
Ouais, en fait, on va s'entendre.
En un mot, c'est quoi?
Du lait, un épaississant comme une maïzena, plein de fleurs d'oranger, du sucre. Et deux secondes. De cuisson.
Et c'est un petit dessert de la cuisine du Levant, hein.
Clairement.
Rappelons que vous avez la laiterie de Paris pour des produits laitiers bien faits avec du bon lait bien sélectionné. Vous entamez également une aventure entrepreneuriale étonnante du côté de Camembert, on l'a dit, vous fabriquez du camembert. Et vous avez d'autres actualités ?
Alors, deux actualités. La première sur le camembert, avec l'association Hello Ernest, on fait un camembert militant. On a envie d'en lancer régulièrement, on le vendra à 8 euros, il servira à financer des paniers bio via Hello Ernest. Donc ça, ça arrive le week-end prochain, sur le 19-20.
Ah bien.
Et dans 15 jours, le 23, on ouvre notre nouvel atelier au 125 rue de Crimée pour faire plein de yaourts, plein de halloumi et vendre plein de lait. Voilà.
Eh ben, merci Pierre Coulon et vous reviendrez bientôt pour d'autres émissions lactées avec ou laitières. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, plein feu sur un légume bien de saison, le céleri, qu'il soit boule ou branche. Notre pote du potager Xavier Mathias et la super chef Marine Gora seront nos invités. Antoine Gerbel et une certaine Elvira Masson seront dans les fauteuils des chroniqueurs.
Avec joie.
À bientôt Manon.
À bientôt.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,